Bon, imaginons la scène. Nous sommes en 2026.
D'accord.
Et dans les zones industrielles qui encerclent Casablanca, c'est l'effervescence permanente. C'est vraiment un ballet incessant de transpalettes.
Mais avec cette odeur de carton neuf, j'imagine.
C'est ça. Et le bruit super strident du scotch, tu sais, qu'on déroule à toute vitesse sur des dizaines de paquets.
Ah oui, le bruit qu'on entend dans tous les entrepôts.
Voilà. Et à première vue, on pourrait croire qu'il s'agit juste d'une simple zone de stockage, le genre d'endroit où l'on garde des marchandises avant de les envoyer dans les supermarchés, quoi.
C'est ce qu'on se dirait tous, en fait.
Sauf que la réalité est bien plus audacieuse, parce que ces cartons, eh bien, ils cachent un modèle économique qui frôle les 30% de marge nette.
Attends, 30% dans la logistique.
Ouais, et c'est une industrie qui est habituellement connue pour ses profits microscopiques, hein. C'est l'équivalent du covoiturage, mais appliqué aux frettes internationales.
Ah, je vois, le fameux groupage.
Exactement. Au lieu de louer un conteneur maritime entier, ce qui est complètement hors de prix pour un particulier, on regroupe les envois de dizaines de personnes dans le même espace. L'objectif final, c'est de casser les barrières du coût d'expédition.
Et c'est une dynamique qui est vraiment en train de restructurer, et de façon très silencieuse, tous les échanges sur le continent.
C'est clair.
Ce qu'on appelle le groupage, c'est pas un concept nouveau en soi, mais son application actuelle depuis le Maroc vers l'Afrique subsaharienne, ça crée des opportunités d'une ampleur totalement inédite.
Et c'est pour ça que notre analyse du jour s'appuie sur un dossier de veille stratégique qui est extrêmement fourni. C'est publié par la plateforme monprojet.ma.
Très bonne source, ouais.
Ce document y décortique complètement le lancement d'un service de groupage logistique sur cet axe précis pour cette année 2026. Et franchement, il y a de quoi être intrigué.
Surtout quand on lit des chiffres.
Mais grave, le dossier parle d'une rentabilité potentielle en seulement 3 mois.
Ce qui est très court.
Une promesse qui ressemble quand même souvent, disons-le franchement, à un discours de vendeur de rêve. Donc la mission de cette session, ça va être de comprendre la mécanique derrière ces chiffres, de voir à qui ce service s'adresse réellement et surtout si ce modèle tient la route face à la réalité du terrain.
Et ce qui est fascinant ici, c'est le contexte macroéconomique qui sert de tremplin à tout ça.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est pas par hasard que cette activité explose précisément maintenant. Historiquement, le Maroc a massivement investi pour devenir le hub logistique incontournable entre l'Europe et l'Afrique.
Ouais, on pense tous à Tangemed, bien sûr.
Exactement. Des infrastructures comme Tangemed ou le port de Casablanca, ça offre une capacité de traitement de classe mondiale. Mais l'infrastructure seule, ça suffit pas.
Il faut que ça circule.
Voilà. Et le véritable déclencheur, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, la fameuse ZELECAF.
Ah oui, qui fait couler beaucoup d'encre, hein.
C'est ça. Maintenant qu'elle est opérationnelle, elle vient démanteler progressivement toutes les barrières douanières et tarifaires. Les blocages administratifs qui étouffaient le commerce entre les pays africains sont en train de fondre.
Ce qui change tout.
Complètement. Se fluidifie les flux d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée il y a 10 ans, en fait.
Bon, décortiquons tout ça. On a d'un côté des ports gigantesques capables d'accueillir les plus gros navires du monde, et de l'autre, des traités commerciaux qui facilitent le passage des frontières.
Le terrain de jeu est parfait.
Ouais, mais un conteneur maritime, c'est immense. Il faut des dizaines de tonnes pour en remplir un seul. Du coup, d'où vient cette demande qui permet d'afficher, d'après la source, une croissance annuelle de 12 à 18% depuis 2023?
C'est une excellente question.
Qui sont ces gens qui envoient constamment des marchandises vers le sud?
Eh bien, l'étude de monprojet.ma identifie 3 moteurs très distincts qui alimentent cette demande phénoménale. Le premier moteur, c'est la diaspora subsaharienne installée au Maroc.
Donc, les étudiants, les travailleurs?
Voilà, on parle d'une population de plus de 100 000 résidents réguliers. Pour ces personnes, envoyer des colis au pays, c'est un lien vital. C'est souvent des vêtements, des petits appareils électroniques, des cosmétiques.
Des trucs du quotidien, en fait.
Exactement. Et ce flux, il est constant. Ça génère des paniers moyens qui se situent entre 500 et 2 000 dirhams par envoi. C'est vraiment la base, le socle de l'activité.
D'accord. Mais je suis un peu sceptique. J'imagine que des colis personnels de quelques kilos, ça suffit pas à remplir des containers de 20 ou 40 pieds à une cadence industrielle. Il doit y avoir des acteurs plus gros.
Précisément. Et c'est là qu'intervient le deuxième segment, qui est en réalité le vrai poumon financier du groupage. Ce sont les commerçants transfrontaliers.
Ah, le B2B.
Ouais, et il s'agit très majoritairement de femmes entrepreneurs. Elles font le voyage jusqu'au Maroc, elles achètent des marchandises en gros, principalement du textile ou des chaussures, et elles doivent rapatrier ces stocks vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun.
D'accord, donc là on ne parle plus du tout de petits paquets affectifs pour la famille.
Non, plus du tout. Là on parle d'expéditions qui vont de 100 kilos à plusieurs tonnes. Elles ont un besoin crucial d'un partenaire logistique fiable qui ne va pas engloutir toutes leurs marges.
Logique.
Et enfin, le troisième segment, ça concerne les PME marocaines, des entreprises de l'agroalimentaire par exemple, ou des matériaux de construction.
Qui veulent s'étendre en Afrique de l'Ouest.
C'est ça. Mais dont la taille ne justifie pas encore la location d'un conteneur exclusif. Donc, elles font du groupage.
Ce qui est super frappant en lisant la géographie de ces flux dans le dossier, c'est la concentration. L'étude montre que 70% de la demande se focalise sur seulement trois corridors de destination.
Lesquels ?
Casablanca vers Abidjan, vers Dakar et vers Douala.
C'est vraiment les axes forts, ouais.
Mais il y a un élément dans le rapport qui m'a fait tiquer. On précise que le transport se fait quasi exclusivement par voie maritime, avec des délais qui vont de 10 à 25 jours.
Ouais, c'est long.
C'est très long. Surtout à notre époque où l'on est habitué à la livraison le lendemain. Pourquoi ne pas s'appuyer sur le fret aérien qui pourrait relier ces villes en 2 à 5 jours?
C'est une remarque pertinente.
On pourrait penser qu'un service premium ultra rapide, ça raflerait tout le marché, non?
C'est une déduction logique, oui. Mais la réalité physique du transport de marchandises impose une règle très stricte. La gravité a un coût.
Comment ça?
Le fret aérien s'est facturé au poids volumétrique. Et les tarifs sont complètement exponentiels. Faire voler une tonne de prêt-à-porter pour l'une de ces femmes entrepreneurs, ça ruinerait totalement son modèle d'affaires. Le coût du transport dépasserait la valeur de sa marchandise.
Ah oui, vu comme ça.
L'aérien, ça reste vraiment confiné aux documents critiques, aux médicaments urgents ou à des pièces industrielles de grande valeur. Pour tout le reste, la rentabilité prime sur la vitesse.
Donc on prend le bateau.
Voilà. Le maritime permet d'écraser le coût du transport à quelques dirhams le kilo. Les clients de ce marché préfèrent largement planifier leur stock 25 jours à l'avance plutôt que de payer un billet d'avion à leur carton.
Je comprends. La rentabilité impose le bateau, c'est clair. Mais du coup, ça soulève une autre question critique. Si ce marché maritime connaît une croissance à deux chiffres, il ne doit certainement pas être vide.
Oh non, pas du tout.
N'importe quel entrepreneur qui tente d'entrer sur ce secteur en 2026 va se retrouver coincé entre deux extrêmes. D'un côté, on a les multinationales géantes de la logistique, et de l'autre, des opérateurs informels locaux.
C'est exactement ça.
Mais alors, comment on peut exister entre un mastodonte mondial et un réseau clandestin quartier bouillonne?
Eh bien, c'est toute la subtilité de la stratégie de positionnement. Le paysage est effectivement polarisé. D'un côté, tu as les géants mondiaux genre DHL ou Bolloré qui offrent une fiabilité totale. Si un colis passe par leur réseau, tu sais exactement où il est.
D'accord, mais à quel prix?
Voilà le problème. Leur structure de coûts rend leurs tarifs totalement inaccessibles pour la diaspora ou les petites commerçantes.
Et l'autre côté du spectre?
À l'autre bout, le secteur informel prospère sur des prix planchers. Ce sont des acteurs qui récupèrent des marchandises, les entassent dans des soutes de bus ou des fourgons, sans aucun manifeste officiel.
Donc zéro papier, zéro trace?
Le tarif est imbattable, c'est vrai, mais le risque est total. Il n'y a aucune traçabilité, aucune assurance. Si le conteneur est perdu ou s'il est bloqué en douane...
La marchandise s'évapore.
C'est ça. Et le client n'a aucun recours légal.
Et la fameuse recette magique, suggérée par monprojet.ma pour trouver sa place au milieu de ce chaos, c'est d'offrir la fiabilité des géants, mais au prix avec la flexibilité du marché local.
Comment ils font ça?
Eh bien, en implantant trois éléments non négociables. D'abord, un système de traçabilité numérique, pour que le client suive son colis directement sur son téléphone.
Indispensable aujourd'hui.
Ensuite, une assurance systématique des marchandises pour éliminer cette fameuse peur de la perte. Et enfin, un service client multilingue.
Multilingue, c'est-à-dire ?
Capable de dialoguer en français, en arabe, en wolof et en anglais. Franchement, ça me rappelle exactement la révolution qu'a connue le secteur du transport de personnes avec l'arrivée des VTC comme Uber.
Ah, l'analogie est très bonne.
On a pris un marché coincé entre les limousines hors de prix et les taxis, disons, aléatoires, et on y a injecté de la technologie et de la transparence. Le but, créer un standard intermédiaire abordable.
Et cette analogie avec les VTC illustre parfaitement la mécanique à l'œuvre. En structurant les processus et en utilisant la tech pour gérer l'information, on rassure une clientèle qui a été échaudée par des années de pratiques informelles. La confiance devient le véritable produit vendu.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que créer de la confiance sur le papier, c'est très beau. Mais dans la vraie vie, il faut des murs, des autorisations, un cadre légal.
Bon, ne fait pas ça dans son garage, c'est sûr.
Bah non. On ne peut pas simplement louer un box au coin de la rue et commencer à charger des palettes de 500 kilos. Le volet administratif détaillé dans la source ressemble d'ailleurs à un véritable parcours du combattant.
Absolument. L'État encadre très strictement tout ce qui touche à l'exportation. Le point de départ, c'est la plateforme gouvernementale rocas.ma.
Où l'on demande quoi ?
Il faut y déposer une demande spécifique pour prestations logistiques et entreposage. Et en parallèle, il faut passer par le Centre Régional d'Investissement, le fameux CRI.
Pour créer la boîte.
Exactement. Créer l'entité juridique, obtenir son identifiant fiscal, s'enregistrer au registre du commerce. Mais le point le plus crucial...
Vu qu'on passe des frontières...
C'est l'inscription au registre de l'administration des douanes et impôts indirects, l'ADIAR. Sans ce sésame, c'est simple, aucun conteneur ne passera les grilles du port.
Et parmi toutes ces démarches, y a une procédure qui m'a complètement scotché en lisant le dossier, l'enquête de Komodo et Incomodo.
Ah oui, la fameuse.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec le jargon administratif, c'est en fait une enquête publique de voisinage.
Ouais, ça peut paraître étonnant pour du B2B.
S'y opposer.
C'est leur droit, oui.
Concrètement, ça veut dire que le boucher du quartier ou le voisin d'en face peut faire capoter tout ton business plan international. Juste en invoquant des futures nuisances sonores, le passage des camions ou l'encombrement des trottoirs.
C'est pour ça que ça peut être dangereux.
C'est assez spectaculaire de se dire qu'un projet d'exportation de cette envergure dépend de l'avis du voisinage, non ?
C'est la raison pour laquelle la localisation de l'entrepôt est une décision de survie. Tenter de s'implanter dans un quartier résidentiel juste parce que le loyer y serait moins cher, c'est une erreur fatale.
Parce que les voisins vont dire non.
L'enquête de Komodo et Incomodo aboutira presque inévitablement à un refus de la commune. Il faut viser les zones industrielles ou les zones d'activité commerciale.
Là où c'est prévu pour ça.
Voilà. Là-bas, le cahier des charges urbains prévoit déjà les nuisances liées aux fret. Et pour passer la commission communale, le dossier doit être irréprochable.
Plan d'architecte et compagnie ?
Plan visé par un architecte, certificat de propriété clair, permis d'habiter conforme. C'est seulement à ces conditions qu'on obtient le fameux permis d'exercer.
D'accord. Bon, imaginons que ce permis est obtenu et qu'il est fièrement encadré dans le bureau. Abordons maintenant le nerf de la guerre.
L'argent.
L'argent, oui. Les chiffres. Le dossier mentionnait une rentabilité en 3 mois, ce qui, on ne va pas se mentir, éveille tout de suite un certain scepticisme.
C'est vrai que ça paraît rapide.
Si c'est si rentable et si rapide, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Et surtout, comment se structure le capital nécessaire pour lancer cette fameuse machine ?
Le rapport modélise 2 approches très distinctes. Il y a d'abord le scénario starter.
Le lancement minimaliste.
C'est ça. Un lancement sous le statut d'auto-entrepreneur, avec un investissement ultra maîtrisé d'environ 45 000 dirhams.
45 000 dirhams. C'est vraiment bas pour de la logistique.
Oui, car à ce niveau, les dépenses sont drastiquement réduites. On loue un petit local, on compte environ 12 000 dirhams pour le loyer et la caution combinés. On consacre 8 000 dirhams à l'équipement matériel de base.
Genre quoi ?
Une balance industrielle robuste, des rayonnages. Ensuite, on ajoute environ 5 000 dirhams pour une assurance responsabilité civile professionnelle, quelques frais juridiques.
Et il reste un petit fonds de roulement.
Oui, c'est une structure frugale, mais qui est capable de traiter 2 à 3 tonnes de colis par mois.
Et le deuxième scénario, maintenant ?
C'est le scénario avancé. Pensez pour un déploiement professionnel immédiat avec un investissement de 95 000 dirhams.
Là, on monte en gamme.
On fonde une SARL, on prend à bail un véritable entrepôt de 80 à 120 mètres carrés en zone industrielle, ce qui mobilise autour de 24 000 dirhams rien qu'en loyer et caution.
Ça change la donne.
Et la grande différence ici, c'est l'intégration d'un système de gestion informatisé. Quand on vise une capacité de traitement de 6 tonnes mensuelles dès le démarrage, on ne peut plus se fier à des carnets à souche ou à des feuilles Excel.
Le risque d'erreur est trop grand.
Exactement, le risque de perdre des colis devient inacceptable. Ce budget de 95 000 dirhams inclut aussi le premier salaire d'un employé, une véritable enveloppe pour le marketing digital.
Mais comment on génère le profit dans tout ça ?
Comment ça ?
Car finalement, l'opérateur de groupage ne possède pas de navire. Il ne possède même pas les conteneurs. Il ne fait que remplir des petites boîtes en carton pour les mettre dans d'autres boîtes en métal plus grandes. Où se cache la valeur ajoutée qui permet ses marges ?
Si l'on relie cela à la situation globale du fret mondial, le mécanisme devient très clair. C'est un pur jeu d'arbitrage entre le commerce de gros et le commerce de détail.
Ah, l'achat en gros.
L'opérateur de groupage réserve un espace massif, par exemple un conteneur entier, de 20 pieds, auprès d'un transitaire maritime. À cette échelle, le coût de revient se négocie entre 10 et 12 dirhams le kilo.
D'accord.
Ensuite, l'opérateur revend ce même espace au détail, client par client, en facturant entre 15 et 25 dirhams le kilo, selon la destination.
L'instant aha se trouve dans la multiplication, en fait.
Totalement.
Une différence de 10 dirhams par kilo, sur le papier, ça peut sembler anecdotique à l'échelle d'un pullover, mais un conteneur de 20 pieds bien optimisé, c'est quoi? Ça contient environ 15 tonnes de marchandises, non?
C'est ça, soit 15 000 kilos.
Donc on parle d'une marge brute qui peut osciller entre 40 000 et 60 000 dirhams pour une seule rotation de navire.
Impressionnant, non?
C'est énorme, mais une fois qu'on a payé le loyer, l'assurance et le salaire, que reste-t-il réellement dans la caisse à la fin du mois?
Les projections financières de l'étude estiment que, dans le scénario starter, une fois le volume de croisière atteint, le bénéfice net mensuel tourne autour de 14 500 dirhams.
Ce qui permet de rembourser les 45 000 dirhams initiaux en quoi, un peu moins de 4 mois.
C'est ça. Et dans le scénario avancé, grâce à l'économie d'échelle sur les 6 tonnes traitées, le bénéfice net grimpe à 44 000 dirhams mensuels.
Donc l'investissement de 95 000 dirhams est théoriquement amorti en 3 mois.
Oui. On navigue dans les deux cases sur une marge nette exceptionnelle d'environ 30%.
Ce sont des chiffres vertigineux pour une entreprise physique. Mais y a un point fondamental. Avoir un entrepôt aux normes et des tarifs alléchants, ça ne garantit absolument rien si les clients ignorent l'existence de l'entreprise.
Le marketing, oui.
Le vrai défi de ces 3 premiers mois, c'est pas l'immobilier, c'est l'acquisition de la clientèle. Comment on remplit ces 15 tonnes alors qu'on vient juste d'ouvrir ses portes?
C'est là qu'une stratégie omnicanale agressive est indispensable. L'étude met en avant une approche numérique hyper ciblée.
Par quels canaux?
Pour toucher la diaspora, les vecteurs prioritaires sont Facebook et WhatsApp Business, notamment à travers les groupes d'expatriés qui sont très très actifs sur ces réseaux. Mais l'usage le plus intéressant, ça reste TikTok et Instagram.
Et ce n'est certainement pas pour y publier des petites danses ou des vidéos humoristiques, j'imagine.
Pas du tout.
Le document insiste sur le fait que ces plateformes servent à filmer les coulisses de l'entrepôt, montrer comment les colis sont pesés avec précision, comment les cartons sont filmés, protégés.
Et comment le conteneur est scellé devant la caméra.
Oui, visuellement, ça crée un contraste massif avec les opérateurs informels qui récupèrent les marchandises à l'arrière d'une camionnette sans jamais montrer où elles vont atterrir. C'est vraiment une stratégie de preuve par l'image.
Exactement. Cela bâtit la confiance. Mais attention! Le virtuel ne suffit pas dans une industrie de proximité. L'étude recommande aussi un marketing de terrain.
Ce qu'on appelle l'approche hyperlocale.
Voilà, il faut investir physiquement les quartiers où la demande se concentre. À Casablanca, ce signifie distribuer des flyers à Derb Sultan ou Haï Mohammadi. À Rabat, c'est le quartier de l'océan.
Être là où sont les clients.
Il faut aussi nouer des partenariats physiques avec les restaurants africains, les salons de coiffure de ces zones. Et instaurer un système de parrainage récompensant l'apport de nouveaux clients avec des commissions. Le dossier parle de 50 dirhams.
Mais comment fait-on pour convaincre un client de quitter son transporteur habituel, même s'il est informel, pour venir tester une nouvelle agence web? Tu sais, les habitudes en la vie dure.
C'est vrai. La recommandation de l'étude, c'est de frapper fort sur le prix d'appel lors du lancement.
Une grosse promo.
Par exemple, facturer les 10 premiers kilos à 12 dirhams, au lieu des 20 ou 25 habituels. Ça abaisse la barrière du risque pour le client qui veut juste tester. Et on couple ça avec une transparence totale, l'installation d'un simulateur de prix sur le site web.
D'accord, donc le client entre le poids, la destination et il a le prix.
Et il connaît le prix final au centime près. Dans un milieu souvent miné par l'opacité et les frais surprises à l'arrivée, cette clarté, ça devient un avantage concurrentiel majeur.
Une marge nette de 30%, un marché en pleine explosion, des méthodes d'acquisition claires. Bon, si on s'arrête là, le tableau semble idyllique.
Presque trop beau.
Exactement. Sauf qu'en logistique, le diable est toujours dans les détails. Quels sont les écueils qui peuvent transformer cet investissement ultra rentable en un désastre financier complet?
Les risques sont proportionnels aux marges. Le premier péril mortel pour la réputation, c'est la détérioration ou la perte des colis.
L'angoisse du client.
Les opérateurs informels meurent souvent de ça. Pour l'éviter, il faut imposer des processus de réception d'une rigueur quasi militaire. Peser devant le client, photographie sous plusieurs angles, inventaire contresigné et, bien sûr, l'assurance.
Et le deuxième risque?
Le passage en douane.
Ah oui. J'imagine que si un client glisse quelques boîtes de médicaments interdits ou des téléphones contrefaits au fond d'un carton...
C'est l'intégralité du conteneur de 15 tonnes qui se retrouve bloqué au port d'arrivée.
C'est une catastrophe pour les autres clients.
C'est le cauchemar absolu de tout opérateur. C'est pourquoi le partenariat avec un transitaire maritime expérimenté, qui maîtrise les spécificités douanières du port de Dakar ou d'Abidjan, est non négociable. Un bon transitaire, c'est comment déclarer la nature hétéroclite d'un groupage sans éveiller de soupçons.
D'accord.
Ensuite, cela soulève une question importante que beaucoup de nouveaux entrepreneurs négligent, le piège de la trésorerie.
Le fameux décalage entre les encaissements et les décaissements.
Voilà. Le transitaire maritime va exiger d'être payé, disons, 150 000 dirhams avant même que le navire ne quitte le port de Casablanca.
Logique.
Mais si l'opérateur de groupage a accepté que ses propres clients le paient à la livraison, il va devoir avancer ses 150 000 dirhams de sa poche.
Et s'il n'a pas les liquidités ?
Le conteneur ne part pas. La seule parade vitale, c'est d'exiger le paiement intégral des clients avant la fermeture du conteneur.
C'est hyper critique de bien gérer ça. Y a-t-il d'autres risques, Sam ?
Le dernier risque, c'est la saisonnalité. Les volumes explosent avant les grandes fêtes religieuses, comme la Tabaski, mais ils peuvent chuter brutalement ensuite.
Donc il faut lisser les revenus.
Exactement. Il faut impérativement fidéliser les commerçants transfrontalières, car leur besoin de réassortiment en B2B reste constant tout au long de l'année.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte ? Au-delà des calculs de rentabilité et des considérations sur les bateaux, on réalise que lancer un service de groupage vers l'Afrique en 2026, ce n'est pas qu'une question de logistique.
C'est bien plus que ça.
C'est la construction minutieuse d'un pont de confiance entre des individus, des familles et des entrepreneurs qui sont séparés par des milliers de kilomètres. Le fait de pouvoir structurer ce maillon critique de l'économie panafricaine pour moins de 100 000 dirhams, ça démontre vraiment à quel point la suppression des barrières commerciales libère l'énergie entrepreneuriale.
Et si l'on prend un peu de hauteur pour regarder vers l'avenir, la trajectoire de ces réseaux locaux pousse à une réflexion assez profonde.
Je t'écoute.
Si aujourd'hui, des structures légères arrivent à numériser et à fiabiliser ces flux de marchandises complexes à travers l'Afrique de l'Ouest, on peut se demander si nous ne sommes pas en train d'observer les fondations d'un futur géant continental de la distribution.
Un genre d'Amazon africain ?
C'est ça. Mais un Amazon qui ne naîtra probablement pas de la simple copie du modèle occidental avec ses entrepôts robotisés gigantesques. Il émergera très certainement de l'agrégation de ces milliers de réseaux de groupages hyperlocalisés
qui sont, eux, profondément enracinés dans la confiance communautaire.
Et la relation humaine directe. C'est une perspective qui change complètement notre façon de concevoir l'avenir du commerce mondial.
Une évolution qui s'appuierait sur la communauté plutôt que sur les seuls algorithmes.
Exactement.
Voilà, qui donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont les grandes révolutions économiques s'adaptent toujours aux réalités locales. C'est ici que s'achève notre exploration de ce dossier fascinant. La prochaine fois qu'on aperçoit de simples cartons empilés à l'arrière d'un entrepôt, il faut se rappeler qu'il s'agit peut-être du cœur battant d'une économie en pleine restructuration. À ceux qui nous écoutent, continuez d'analyser le monde qui vous entoure et à très bientôt pour décrypter de nouveaux horizons.